Tabac, alcool, cannabis, nouvelles drogues de synthèse, gaz hilarant, jeux d'argent ou encore l'usage des écrans. Si l'existence de ces substances illicites ou non et de ces comportements est le plus souvent connue du grand public, que savons-nous de la maladie addictive qui peut se cacher derrière eux? Parfois, nous sommes tous concernés par la menace que représente l'addiction en tant que patient, en tant que proche ou en tant que citoyen. Bien prévenir cette maladie, notamment auprès des jeunes générations, suppose de bien connaître cette maladie complexe, mais aussi les soins et l'accompagnement qu'elle nécessite. Comment se définit l'addiction? Quels sont les symptômes? Quels sont les signes qui doivent alerter? Quelles sont les conséquences de cette maladie sur la vie de la personne qui en souffre, mais aussi sur celle de son entourage? Suffit-il de vouloir pour s'en sortir? C'est pour vous transmettre l'essentiel à savoir sur ce sujet et sortir des idées reçues qu'Alliance a créé pour vous cette conférence. Bienvenue. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir le professeur Laurent Carilla. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous.
Merci.
Alors, professeur, vous êtes psychiatre spécialisé en addictologie. Vous êtes enseignant à l'Université Paris-Saclay et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur ce sujet de l'addiction. Vous êtes aussi l'auteur du podcast Addiction, dans lequel vous interviewez des personnes ayant connu des addictions, de près l'addiction et d'anciens addicts qui s'en sont sortis. Merci beaucoup d'être
Merci.
Avec nous. Et puis j'ai aussi le grand plaisir de recevoir Keren. Alors vous êtes aussi surtout connue sous le nom de Rose. Vous êtes autrice, compositrice et interprète. Votre voix, nous sommes très nombreuses et nombreux à la connaître, notamment grâce à votre chanson La Liste, qui a connu un très très grand succès. Alors Rose, en 2019, vous révélez dans un livre et un album Kérosène votre addiction à la cocaïne et à l'alcool. Aujourd'hui, vous êtes sur le chemin de la sobriété et vous vous donnez du mal pour aller bien, c'est ce que vous dites aussi. Vous coproduisez et présentez le podcast Contradiction, pour lequel vous interviewez des anciens addicts, des thérapeutes et des addicts aussi. Alors, aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, nous l'avons tous compris, c'est l'addiction. Donc, je voudrais d'abord, professeur, qu'on commence par définir ce que c'est. C'est très important. Comment se définit l'addiction? Qu'est-ce que c'est exactement?
L'addiction, c'est une maladie chronique, comme une hypertension artérielle, comme de l'asthme. C'est une maladie chronique qui va toucher le cerveau, les émotions, les comportements. Et en fait, ça va dérégler des circuits dans notre cerveau. On a quatre grands circuits, le circuit de la récompense, le circuit de la mémoire et de l'apprentissage, le circuit de la motivation et le circuit du contrôle. C'est quatre grands circuits qui fonctionnent ensemble en situation physiologique. Et quand on est addict, ces circuits ne marchent plus. Donc, pour bien comprendre ou imager ça, on peut utiliser la métaphore, moi j'adore les métaphores, la métaphore du feu tricolore. Vous voyez, un cerveau addict, c'est un cerveau où le feu ne fonctionne plus. Un cerveau non addict, c'est ce feu tricolore fonctionne. En vert, j'y vais, en jaune, je ralentis, en rouge, je m'arrête. Le cerveau addict, il est que en feu vert. Donc il n'y a jamais de contrôle et jamais de régulation des choses.
Il n'y a plus de régulation. Et Rose, pourquoi est-ce que vous avez ressenti le besoin, l'envie de témoigner de votre addiction et de participer vous-même à faire mieux connaître cette maladie et puis ses conséquences aussi?
Ça s'est fait en deux étapes parce que le moment où j'ai décidé de tout arrêter en 2017, ça a été pour moi, l'écriture de Kérosène dont vous avez parlé, ça a été pour moi, la première étape, c'est la capitulation, admettre, sortir du déni, et c'était dans un but cathartique, et c'était plus pour moi, j'ai pas pensé une seconde à ce que ça pouvait apporter aux gens en soi, parce qu'au début j'ai écrit ce livre comme un journal de bord, une béquille pour m'aider justement dans ma sobriété. Ça a marché pendant quelques années, et puis comme c'est une maladie chronique, puisque le professeur vient de nous le dire, la maladie chronique est souvent, elle est caractérisée par des rechutes, et voilà, il y a des crises en fait. Donc comme il y a eu rechute, il y a eu une deuxième étape qui a été celle de me rétablir vraiment. C'est-à-dire, j'avais compris que je ne pouvais plus consommer d'alcool et de cocaïne, mais je ne savais pas comment le faire. Et à ce moment-là, j'ai trouvé des solutions adaptées et surtout d'apprendre à vivre sans drogue. Parce que de plus se droguer, c'est que le début. C'est que le début. Et il faut après apprendre à vivre sans.
Et c'était important pour vous de parler de ça, de témoigner de ça.
Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai dû apprendre à vivre sans, donc trouver des solutions. Et ces solutions-là, comme elles fonctionnaient, j'avais envie de les partager. J'avais envie aussi d'aider parce qu'il y a aussi ce cercle hyper altruiste qui est égoïste altruiste. J'aide quelqu'un et en retour, il me vient... c'est très circulaire, hein, en fait, hein, l'altruisme. On donne et on reçoit. Et dans l'aide, moi, j'apprends beaucoup et je me rétablis. Et en invitant des gens dans mon podcast, c'est exactement ça qui se passe aussi. C'est une identification, permettre aux gens de s'identifier à des personnalités, permettre à des gens de découvrir leur maladie, par exemple, avec l'épisode qu'on a fait avec Laurent, le premier épisode, énormément de gens sont venus vers moi en me disant « Mais c'est fou, je ne savais pas, j'ai compris que j'étais addict, toi. » Donc, c'est sortir du déni, s'identifier et trouver des solutions dans le podcast.
Et justement, dans ce premier épisode de podcast que vous partagez avec le professeur Carilla, vous parlez, professeur, et oui. Rose aussi, des 5 C, finalement, les symptômes de l'addiction. Est-ce que vous pourriez nous expliquer voilà, quels sont ces 5 C?
C'est un moyen mémotechnique que j'ai créé il y a quelques temps pour justement que les gens comprennent ce que c'est l'addiction, qu'est-ce que c'est comme symptôme. Donc, c'est 5 fois la lettre C sur au moins une année avec... J'ai rajouté un petit truc récemment avec de la dépendance physiologique. Alors, je vais m'expliquer. 5 C, le premier C, c'est une perte de contrôle. Le deuxième C, c'est un usage compulsif. On ne peut pas s'empêcher d'eux. Le troisième C, c'est un mot anglais, craving. Ça veut dire l'envie irrépressible de consommer, qui est un symptôme fort dans l'addiction. Le quatrième C, c'est un usage continu. Ça dépend des produits, ça dépend des comportements, mais en fait, c'est quelque chose qui est régulier, qui est cyclique. Et le dernier C, c'est les conséquences sur sa vie psychique, physique, hein, son cœur, son cerveau, etc., et social, le couple, les enfants, la famille, le travail, etc. Donc il y a 5 fois la lettre C sur 12 mois. Si on a ces 5 C sur un an, on est addict. Et on peut avoir ce qu'on appelle la dépendance physiologique, c'est quoi? Des symptômes de manque et ou une accoutumance. Une accoutumance, c'est quoi? On augmente les doses de notre produit addictif pour retrouver les effets de la première fois qu'on ne retrouvera jamais.
Professeur, quelles sont les étapes de la mise en place de l'addiction et quel est le point de bascule entre l'usage et la dépendance?
En fait, c'est un épisode en 3 étapes. La première étape, c'est l'usage simple. L'usage simple, ça correspond aux substances licites, à l'alcool et au tabac. C'est-à-dire qu'on va boire un verre avec des copains, des copines, on va fumer une cigarette avec des copains et des copines. Ça, c'est usage simple. Même s'il y a une nocivité potentielle, c'est usage simple. L'étape d'après, c'est l'usage excessif. C'est je consomme beaucoup, par exemple dans une soirée, je suis ivre, je reprends ma voiture et j'ai un petit accident sans gravité, par exemple. Ça peut être gravité, mais sans gravité. Ça, c'est, on est dans l'usage excessif. C'est-à-dire, c'est des symptômes qui font qu'on a beaucoup consommé et on a un incident ou un accident. Ça peut être un incident de santé ou un incident matériel, etc. Et après, c'est l'addiction. Mais on ne bascule pas forcément de l'usage excessif à l'addiction. C'est une étape intermédiaire. Par exemple, en France, on a 2,5 millions d'usagers excessifs d'alcool. Ils ne sont pas tous addicts. Ils risquent de devenir addicts.
On reviendra justement sur cette idée de « sommes-nous tous égaux justement face à l'addiction ?» Et Rose, une question importante, c'est comment est-ce que l'alcool et la cocaïne se sont progressivement installés dans votre vie? Qu'est-ce qui justement, pour illustrer ce que disait le professeur Carilla, comment est-ce que progressivement vous avez eu la sensation que finalement, ils prenaient contrôle de vous, de votre vie et...
Au début, c'est vrai que c'est plutôt festif dans mon cas, en tout cas dans beaucoup de cas. Hein, c'est quelque chose qui commence un petit peu avec ce côté récréatif, festif. Et c'est des mots qui aujourd'hui, pour moi, me semblent aberrants pour moi d'utiliser le mot récréatif et festif avec le mot drogue, en sachant tout ce que ça implique, c'est pas possible. Donc il y avait des petites alertes de quand j'étais jeune, quand j'étais même enfant, je pense que très vite, j'ai eu des obsessions et des compulsions sur des choses, sur la nourriture, sur la cigarette très tôt. Quand j'ai commencé à fumer, j'ai fumé tout de suite énormément. Quand j'ai commencé à boire, la première fois que je bois à 16-17 ans, en fait, je finis ivre morte. Donc, c'est vraiment, dès le début, j'ai compris que, justement, j'étais en feu vert continu.
Donc, l'usage excessif, en tout cas, était là rapidement.
Oui, voilà. Moi, j'étais dans l'abus et dans l'excès tout le temps, mais pour tout. Et surtout dans les extrêmes, c'est tout ou rien. Donc, je pouvais m'arrêter de plus rien prendre. Je pouvais ne rien prendre pendant des semaines et puis d'un coup, je reprends. Par contre, la modération, c'était impossible. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, je tends vers l'abstinence. Parce que, en fait, la modération, c'est beaucoup trop compliqué. C'est impossible. Impossible pour des gens comme nous qui ont des feux verts permanents. J'ai commencé à boire donc assez jeune, comme je vous ai dit. La cocaïne est arrivée plutôt à 10 ans après, à 27 ans. Et au début, c'était vraiment parce que j'ai découvert ça, c'est un nouveau produit, on a le cerveau qui d'un coup se plaît à se voir agir comme ça d'une façon totalement sûre de lui. Enfin voilà, il y avait cette assurance, il y avait ce côté aussi, on mange pas, on dort pas, on est up. Voilà, on est up. Et puis petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais consommer beaucoup plus, de ne pas espacer les prises. Justement, avant, c'était aller toutes les semaines et tout. Et là, je voyais que ça se rapprochait. Mmh. Et puis surtout, on commence à consommer seul.
Ouais.
Voilà. Et moi, je trouve que c'est quand on commence à consommer seul et qu'on enchaîne comme ça ce cercle vicieux de nuits blanches avec des jours au lit. Enfin bon, c'est infernal. Mmh. C'est infernal.
Et je crois que la consommation seule est clairement en plus un des symptômes de l'addiction, en tout cas peu.
C'est un indicateur à risque.
En fait,
ce que décrit Rose, elle décrit bien. Usage récréatif, usage excessif, et après, elle bascule dans l'addiction. Mmh. Les indicateurs de à risque, c'est consommer seul et consommer à visée autothérapeutique, c'est-à-dire qu'on prend la substance comme un médicament pour nous apaiser.
Mmh, justement, on va y revenir. Et professeur, on a commencé à en parler tout à l'heure, mais est-ce qu'on est tous égaux face à l'addiction? Et quels sont les facteurs qui, d'après vous, d'après votre expérience, rendent un individu plus vulnérable qu'un autre?
Non, on n'est pas tous égaux face à l'addiction. Sinon, on n'aurait que des gens addicts. On a tous des vulnérabilités potentielles, mais il y a des facteurs, en fait. Il y a cinq grands facteurs. Le facteur central, c'est notre développement personnel. C'est-à-dire que notre enfance, comment elle s'est passée, notre puberté, comment elle s'est passée, notre rencontre avec les gens, il y a des différences entre les garçons et les filles. Ça, c'est le central. Ça va interagir avec notre tempérament, notre psychologie. Est-ce qu'on a des troubles? Est-ce qu'on est hyperactif? Est-ce qu'on a un déficit de l'attention? Est-ce qu'on est déprimé? Est-ce qu'on est anxieux? Est-ce qu'on a des troubles du sommeil? Ça, c'est le deuxième facteur. Le troisième facteur, c'est le cerveau. Le cerveau fait sa puberté autour de 20-25 ans. Donc, s'installent tous les circuits, s'installent tous les échanges dans le cerveau. Et en fait, si vous amenez des produits ou des comportements addictogènes à votre cerveau avant 20-25 ans, tout ne va pas être bien architecturé. Vous voyez ce que je veux dire? Et le quatrième facteur, c'est le facteur génétique, qui explique 40 à 70% de la maladie, qui n'explique pas tout. Et le dernier facteur, pour moi, c'est un facteur important, c'est l'environnement. L'environnement joue un gros rôle dans l'installation de la maladie addictive. Pourquoi? Il y a, dans ce facteur environnemental, il y a les substances présentes, les drogues, l'alcool, le tabac.
Ce que consomment ceux qui nous entourent, par exemple.
Il y a le produit, comment il est disponible. Il y a l'entourage, il y a les habitudes familiales, il y a l'éducation, il y a la vie sociale, et il y a le stress environnemental. Et en fait, pour être addict, il faut que ces cinq facteurs soient déséquilibrés. Vous voyez, les cinq que je viens de décrire. Il n'y a pas un seul facteur qui va expliquer la maladie, et surtout, on ne peut pas dire qu'un élément du facteur fait qu'on est addict. Par exemple, rencontrer une drogue, goûter une drogue une fois, ne fait pas de vous quelqu'un qui est potentiellement addict.
Heureusement,
t'imagines.
Et on y reviendra aussi un petit peu plus tard, mais je comprends que la substance ou le comportement sont souvent utilisés, vous le disiez, comme des solutions face à des problèmes qu'on appelle racines, qui sont non résolues. Vous parliez tout à l'heure du fait de prendre un médicament pour justement traiter quelque chose, un vide qu'on a envie de combler aussi. Qu'est-ce qui, d'après vous, Rose, explique que l'addiction se soit immiscée dans votre corps, dans votre vie? Est-ce que c'était pour remplir quoi, finalement? Est-ce que c'est arrivé, ça?
Moi, je pense que déjà, l'être humain est né avec un trou béant dans le ventre. Enfin, j'ai vraiment cette sensation-là que ce n'est pas que les addicts non plus. Ce n'est pas que les toxicos qui ont le luxe d'être aliénés. Je pense que l'humain s'aliène à beaucoup de choses, à la consommation notamment, d'argent ou de choses. Mais l'addict, particulièrement, va se détruire complètement. Moi, j'avais ce vide, ce besoin de reconnaissance aussi, besoin d'être le centre d'attention. Il y avait toute cette notion aussi d'illégitimité. J'étais très mélancolique, j'écrivais mes petits poèmes dans mon coin. Et vraiment, je sentais les problèmes racines, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, je sentais que j'étais en manque de quelque chose. Donc, en fait, il y avait un craving, mais je ne savais pas encore de quoi. C'est ça qui est fou, qu'en fait, je sentais un manque. Mais comme je n'avais pas encore goûté aux substances et à tout ça, donc c'est pour ça que souvent, il va y avoir le chocolat quand on est jeune, parce qu'on ne connaît pas encore les drogues, mais on va abuser des bonnes choses tout de suite. Et ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne chose, dont on peut supporter l'abus, en fait. Hein. Je ne sais pas qui a créé ce monde, mais ce n'est pas normal. Parce que la feuille de salade, personne ne nous empêche de la manger.
Ouais, il y a très peu d'abus.
On a le droit d'abuser. Ouais. Et vraiment, moi, il y a vraiment ce côté substitut à l'amour, en fait. C'est vraiment
que vous
ça.
Vous allez chercher.
Ouais.
Dans les substances aussi. Et alors là, on parle de substances, on parle d'addiction aux substances, mais elle peut aussi porter sur un comportement ou, comme on l'a dit, une consommation d'un produit licite ou pas, qui soit consommé au départ pour soigner ou non d'ailleurs. J'aimerais justement maintenant qu'on se penche justement sur l'objet de cette addiction, donc que ce soit du comportement ou des substances. Et professeur Laurent Carilla, une drogue, une substance psychoactive, qu'est-ce que c'est et quelles sont les principales substances consommées en France ?
Une drogue, c'est une substance psychoactive, comme vous l'avez dit. Donc, substance psychoactive, ça veut dire ça va agir sur le cerveau. D'accord ? Et ça va agir sur les circuits dont je parlais au début de notre entretien. C'est, on a des circuits qui communiquent ensemble, tous, qu'on appelle récompense naturelle. Récompense naturelle, c'est quoi ? C'est manger, boire, avoir des rapports sexuels, aimer passionnément quelqu'un ou un style d'art particulier. Moi, c'est le heavy metal, par exemple, vous le savez. Et donc, ces circuits-là, quand je mange, quand je bois, quand j'ai des rapports sexuels, etc., ils s'activent. Donc, la récompense va envoyer un message à la mémoire, à l'apprentissage que j'ai appris depuis que je suis petit, en fait. C'est tu vas manger, t'as faim, voilà, c'est super. Ça va envoyer un message au circuit de la motivation. Je vais changer mon comportement, je vais aller chercher quelque chose à manger, je vais manger. Et le dernier circuit, chez nous, c'est le contrôle. D'accord ? Le contrôle, c'est une fois que j'ai fini de manger, je m'arrête. Les addicts, eux, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, si la substance, elle va utiliser le chemin de l'amour, de la musique, de la bouffe, etc., mais elle va, au fur et à mesure qu'on consomme, qu'on répète, ça coupe les circuits. Hein, c'est très schématique. Il n'y a que la récompense et la mémoire. D'accord ? Donc, c'est, ça veut dire
ce
quoi ?
Ce fameux feu vert.
Ouais, c'est ça. La récompense et la mémoire, c'est quoi ? C'est la première fois que j'ai pris une drogue, ça m'a fait du bien. J'ai plus de motivation, je ne vais pas changer mon comportement, et j'ai plus le contrôle, je perds contrôle, c'est ce qu'on disait avec les 5C. Et donc, toutes ces drogues agissent sur ces circuits. Et les drogues, il y a l'alcool, le tabac, la cocaïne, les médicaments opioïdes, les médicaments tranquillisants, les amphétamines, la MDMA, il y a les nouveaux produits de synthèse, il y a énormément de produits qui vont dérégler le circuit. Et il y a des comportements qu'on a dans notre habitude qui peuvent dérégler ces circuits-là, comme l'activité physique, comme la sexualité, comme acheter, comme manger.
Et Rose, dans votre livre, vous racontez que quand vous découvrez le produit qu'est la cocaïne, vous pensez, mais ça fait saigner du nez, il y a presque une peur. Quand vous en parlez, vous dites, ça fait saigner du nez, on peut en mourir sur le coup. En tout cas, les pensées qui jaillissent quand vous pensez à cette consommation-là. Professeur Laurent Carilla, quels sont les risques et les dangers associés à la consommation de ces substances, même si j'imagine que...
Ah, c'est très vaste.
On pourrait faire une conférence seulement sur ça.
Ouais, on pourrait, c'est très vaste. Bah, il y a des conséquences, comme on le disait, hein, c'est un des 5 C, donc c'est les conséquences physiques, donc sur le corps, et en gros, en commun, le cerveau est touché sur le plan physique, donc ça peut être des accidents vasculaires cérébraux, ça peut être des crises d'épilepsie, des crises convulsives, ouais, c'est très résumé. Hein. Sur le cœur, ça touche le cœur, ça peut être des infarctus, des syndromes coronariens, ça peut être des troubles du rythme du cœur, ça peut être... au niveau des poumons, quand on fume un produit, eh ben, ça peut être des épanchements de gaz dans le poumon, des infections du poumon. Quand on sniffe un produit, ben, ça va toucher tout ce qui est ORL, donc des infections de la cloison nasale, des perforations de la cloison nasale. Ça peut être... En fait, les complications, c'est très, très vaste. Hein. Vous pouvez avoir aussi des atteintes des membres inférieurs et des membres supérieurs. Ça, c'est le plan physique. Sur le plan psychiatrique, c'est assez commun avec les substances. Ça peut être des crises d'angoisse induites par le produit, des épisodes délirants aigus qui conduisent à... c'est pas on délire, c'est trop cool. C'est des épisodes délirants aigus qui conduisent à l'hôpital psychiatrique. Ça peut être des dépressions, ça peut être des tentatives de suicide. Et la matrice commune, il y a des troubles qu'on dit cognitifs, comme ce qu'il y a dans la démence, avec des troubles de l'attention, de la mémoire, de la concentration et de la prise de décision. Et l'addiction, c'est un déficit de prise de décision, en fait.
Et vous le disiez tout à l'heure, la maturité cérébrale, elle arrive à peu près à sa fin, elle touche à sa fin entre 20 et 25 ans.
La puberté cérébrale.
La puberté cérébrale. Ouais. Est-ce qu'on doit comprendre que les risques sont accrus quand la consommation, justement, se fait avant cet âge-là ?
Bah, c'est simple, hein. Moi j'utilise encore une petite métaphore, ouais. J'adore les métaphores. Vous voyez une falaise ?
Ouais.
Vous voyez une falaise, hein.
Ouais.
Vous avez une pioche, et vous tapez dans la falaise. Si je vous dis, Vous tapez dans la falaise, ça fait quoi la première fois? Il y a un peu de cailloux.
Ça l'abîme un petit peu, ouais.
Vous retapez, à chaque fois que vous consommez, c'est un coup de pioche. Tac, 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 tac. En fait, le cerveau, c'est la falaise. Et à chaque fois que vous prenez une substance, vous enlevez, vous l'abîmez. Et en fait, le cerveau n'a pas fini d'être une vraie falaise. Et donc, si vous mettez des coups dedans, vous imaginez bien que tout ne va pas être structurellement parfait.
Très bien. Et entre le cannabis, l'alcool, la cocaïne, la MDMA, le tabac, que sais-je, il y a énormément, effectivement, d'en plus, de nouvelles drogues de synthèse qui s'ajoutent à tout ça. Est-ce qu'il y en a certaines qui sont plus dangereuses que d'autres ou pas? Est-ce qu'on peut opérer une classification?
J'aime pas trop, moi, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que le tabac, c'est la substance qui va tuer une personne sur deux. Ouais. Elle est responsable de 73, 75 000 morts par an en France. Mmh. L'alcool, c'est la deuxième cause de mort évitable dans le monde. En France, c'est 41 000 morts par an. Et les autres substances, oui, on peut avoir des accidents. Toutes les complications qu'on a vues tout à l'heure, on peut avoir des accidents. Par exemple, je vous dis, avec la cocaïne, que vous en preniez une fois, deux fois, 10 fois ou 10 000 fois, une heure après, vous avez un risque multiplié par 24 de faire un infarctus du cœur. Donc, il y a tous ces éléments-là à prendre en compte. Mais si j'ai envie de dire, le tabac, c'est la drogue la plus addictive et c'est celle qui va tuer une personne sur deux.
Ouais, du coup, je comprends qu'il y a quand même des éléments de contexte, de l'individu qui consomme, la quantité consommée, le moment de la consommation, si c'est consommé avec d'autres drogues.
Tout à fait.
Et Rose, vous dites, dans une précédente interview, vous dites « j'étais dans la destruction de tout ce qui était beau, finalement, quand vous consommiez ». Quelles ont été, Rose, les conséquences de votre addiction sur votre vie, sur votre vie personnelle, sociale, professionnelle, concrètement, comment, voilà, ça...
Quelles ont été les répercussions, elles sont multidimensionnelles, hein, c'est-à-dire que dans tout ce que le professeur Carilla a évoqué, je me reconnais dans tellement de choses, c'est-à-dire déjà, un peu moins physiquement d'ailleurs, moi c'est plus psychiatriquement parlant, je pense les dégâts qui ont eu lieu étaient beaucoup plus psychiques, mais déjà il y a une fatigue, moi, je me suis opérée de polype plusieurs fois parce que, évidemment, la sphère ORL vraiment est très concernée par la cocaïne. Hein. Donc, je me rappelle très bien même d'un grand médecin qui m'avait mis une petite caméra pour aller voir mes cordes vocales. Et il avait même vu à la caméra les résidus et ce que la cocaïne faisait sur la sphère ORL. Donc, moi, il y avait évidemment tout ça. Mais c'est-à-dire que surtout, on est impuissant, on ne peut plus faire avec et on ne peut plus faire sans. Donc du coup, on est prisonnier, évidemment, c'est ça l'addiction, mais aussi on est dans la culpabilité. La culpabilité, en plus, ça nous fait consommer parce qu'on ne se sent pas bien, on consomme, on se sent coupable. Donc c'est un cercle vicieux infernal. On est tellement mal qu'on va chercher à l'extérieur de soi ce qui nous manque dedans. Donc c'est insoluble. Donc moi c'est plutôt la sphère psychiatrique à ce moment-là qui est touchée, c'est la dépression. Pour moi c'est ça qui a même été le déclic, donc heureusement peut-être qu'il y a cette dépression-là. Parce que la dépression à un moment donné on ne peut plus vivre, on se dit que pour arrêter de souffrir il va falloir mourir. Donc les pensées suicidaires évidemment, je me suis coupée de tous mes amis qui ne pouvaient plus vraiment ni me faire confiance, ni m'aider, parce qu'en fait je ferme la porte, en fait je veux pas qu'on m'aide puisque je veux consommer. Moi je veux pas qu'on m'aide, je veux qu'on me laisse tranquille parce que sinon je vais pas pouvoir consommer. Donc je disparais, j'éteins mon téléphone, j'annule les rendez-vous, ma maison de disques me rend mon contrat, c'est un cercle vicieux et il n'y a qu'une seule façon d'en sortir, c'est de l'inverser, quoi, de rétablir des bonnes choses petit à petit, mais ça on va en discuter peut-être un peu plus tard, mais quand on est dans l'addiction, c'est des journées au lit, c'est des nuits blanches, on devient irritable, impatient, colérique. Moi j'étais dans des états, je ne peux même pas dire que je ne me reconnaissais pas, parce qu'en fait j'ai commencé à consommer autour du moment où le cerveau atteint sa puberté. Je pense que j'ai perdu pas mal de connexions neuronales, quoi. Ouais, mais même encore aujourd'hui, ma mémoire. Il y a des moments, il y a cette prise de décision aussi, il y a des moments je suis en panique, comme si j'étais dans l'incapacité de faire un choix, mais depuis que j'ai consommé, hein. C'est fou.
C'est toutes les sphères de la vie, vraiment.
Complètement, et ça continue, en fait. Je veux dire, malgré le fait qu'on mette tout en œuvre pour se rétablir, il y a des moments où on appelle ça la cuite sèche aussi. C'est vraiment, on est à jeun, on est abstinent, mais on se sent comme si on avait consommé. C'est très particulier. Moi, ma mémoire a gardé cette sensation-là de lendemain, de cuite, de high, de craving, de stimuli. Les stimuli, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on voit immédiatement dans le cerveau. Il y a un truc qui s'allume, genre, veux consommer, quoi. Une personne, un lieu.
Il y a des images qui le montrent, je crois, cérébrales.
Il y a des images,
complètement.
Qui le montrent, ouais.
Et l'imagerie cérébrale, c'est fabuleux pour ça, de regarder un peu.
Ouais. Et j'imagine que, du coup, on en parlera aussi après, mais ça impacte forcément le chemin aussi de sobriété pour se sortir définitivement de l'addiction. Et professeur, l'addiction, on l'a dit tout à l'heure, peut porter aussi sur un comportement.
Tout à fait.
Quels sont les comportements que vous constatez le plus en consultation, ce pourquoi on vient vous voir?
Moi, je vois beaucoup, tous nos comportements quotidiens peuvent être impactés par les addictions. Hein. Donc, c'est-à-dire que, parce que ça emprunte encore une fois tous ces circuits dont on a parlé tout à l'heure. Donc, la sexualité, je vois beaucoup de gens qui ont des problèmes avec l'addiction sexuelle. Je vois beaucoup de gens qui ont des problèmes avec les achats compulsifs. Je commence à voir des addictions aux exercices physiques, hein, au sport. Je vois pas beaucoup, mais il y en a des addictions aux jeux de hasard et d'argent, hein, aux paris en ligne. Paris sportifs en ligne, et aussi les jeux vidéo.
Et on a, un des objectifs de cette conférence, c'est justement de casser les idées reçues,
oui.
Ou en tout cas d'apporter un éclairage sur ces questions-là. Et parmi les idées reçues, il y a celle qui consiste à dire que finalement, l'addiction à un comportement est moins grave que l'addiction à une substance.
Ah, pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout. Parce que, merci pour cette question, mais une addiction sexuelle, elle peut être aussi grave qu'une addiction à une substance. Alors, on ne va peut-être pas avoir les mêmes manifestations physiques du syndrome de manque, par exemple, mais il y a des syndromes de manque chez quelqu'un qui est addict, ça fait partie de la définition. Donc, quelqu'un qui a une activité sexuelle addictive, c'est-à-dire qu'il peut se masturber X heures par jour, il peut avoir plusieurs partenaires réels, virtuels, il peut se connecter à des caméras, etc. Enfin bon, ça va impacter sa vie, il va avoir les 5 C, et il peut avoir des conséquences avec... des conséquences sur sa vie de couple, il peut se mettre en danger lors de rapports sexuels non protégés, etc. etc.
Et justement, parce qu'on ne rentrera pas dans le détail de tous les comportements et les substances qui peuvent concerner l'addiction, mais en complément de la conférence, vous aurez la possibilité de retrouver des fiches pratiques qui ont été spécialement conçues et qui rentrent beaucoup plus dans le détail de justement des produits, certains produits et comportements addictifs. Ils sont disponibles au téléchargement. Alors, on va maintenant se pencher sur la question du soin de l'addiction. Comment est-ce qu'on soigne l'addiction? Et professeur, qu'est-ce que vous conseilleriez à un parent démuni qui vient vous consulter parce que son enfant présente peut-être tous les symptômes de l'addiction? Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à ce parent-là?
Qu'il ne faut pas rompre le dialogue dans la famille, avec son enfant, avec son ado, avec son jeune adulte. Il y a tous les âges, il y a tous les formats de consultation. Pas rompre le dialogue, ne pas se positionner en thérapeute, ne pas se positionner en policier, ne pas faire des tests urinaires à ses enfants pour voir s'ils consomment des drogues, ça ne sert à rien, ça, on le fait nous à l'hôpital ou en consultation, se faire aider. Donc il faut essayer d'amener son enfant en consultation pour qu'il y ait une évaluation qui soit addictologique, mais aussi psychologique et physique, hein, le global. Et les parents, il faut se faire aider aussi. Alors il y a des associations, par exemple, il y a Al-Anon, qui aide les parents avec la problématique d'alcool, il y a Naranon avec les problèmes narcotiques, il y a des groupes de parole, il y a aussi des patients experts qui peuvent intervenir, il y a tout ça. Et il y a aussi les consultations jeunes consommateurs pour les 15-25 ans qui peuvent aider aussi des parents un peu désespérés.
Et il y a un point qui est très important, on l'a dit en introduction, c'est que la volonté ne suffit pas forcément pour s'en sortir. Vous le disiez, le circuit de la motivation, il est affecté par la maladie, et donc vouloir s'en sortir ne suffit pas s'en sortir seul. Rose, j'aimerais qu'on revienne sur vous, sur votre expérience, et justement sur le déclic, si on peut l'appeler comme ça, qui vous a poussé à demander de l'aide et qui fait que vous en êtes là aujourd'hui.
Le déclic, il y a une notion de volonté quand même dans le déclic. On a la volonté... En tout cas, que ça se passe différemment, que ça soit plus comme ça, de ne plus vivre la vie de cette façon-là. Ce déclic, il peut arriver, moi je l'ai dit, c'est la dépression déjà, parce qu'en fait, clairement, à un moment donné, on pense vraiment qu'il vaut mieux mourir, parce que en fait, c'est infernal, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais, on arrête, on n'y arrive pas, on reconsomme, le cercle vicieux de la dépendance. Et peut-être j'aurais pas eu d'enfant, je serais peut-être plus là en fait. Je pense que à un moment donné, j'ai cette vision de mon fils qui pourrait ne plus avoir de mère, quoi. Ça Ça, c'est violent. Ça, c'est un moment où, où on se dit, il n'a rien demandé. Lui, il n'a pas demandé ça. Voilà. Donc ça, c'est à chaque fois, ça me remue d'en parler, mais c'est vrai que c'est ça, le vrai déclic. Après, inverser la vapeur, il n'y a que ça à faire, parce que vu que c'est que des cycles infernaux, soit vicieux, soit vertueux, on est obligé de rentrer dans quelque chose de vertueux, donc de poser des actes positifs. Alors, soudainement, moi, mon corps a décidé d'aller vers ce qui lui faisait du bien. Et c'est un petit peu le changement radical de ma vie, parce qu'avant, j'allais uniquement là où ça faisait mal, mais que ce soit en amour, que ce soit, enfin dans tout, hein. C'est-à-dire qu'il y a une addiction, c'est une addiction à la souffrance, c'est une addiction à la destruction. C'est au-delà du comportement et du produit, c'est une addiction à une pensée limitante de soi-même, le fait de se dire je ne vaux pas la peine, je n'y arrive pas, je suis nulle. Donc il va falloir commencer à s'aimer. Donc sinon c'est impossible, hein. Attention, moi, je me rends bien compte de ça, parce que les périodes où j'ai cette baisse d'estime, où je commence à rentrer, parce que je vais le dire beaucoup, mais c'est que ça, c'est-à-dire, je le vois maintenant, heureusement, il y a cette lucidité. Parce que quand on est clean, il y a une chose qui change, les pensées sont toujours là, cette addiction à cette pensée limitante est là, mais comme on ne consomme pas, on est lucide. Et là, on se dit, là, je vois que je suis en train de faire ce mécanisme-là, et ça va être ça. Ça va être ça la thérapie, en fait. C'est ça une thérapie comportementale et cognitive. C'est aussi de reprogrammer son cerveau et tout d'essayer d'inverser les mécanismes. Exactement. Vu qu'on dit, oui, tu crois que c'est facile, toi, quand tu as envie de consommer, de dire, ben, respire jusqu'à 4, allonge-toi, fais une méditation. Quand tu as envie de consommer, tu consommes. Ben non, parce que vu qu'on a réussi à créer ce mécanisme-là, dès que je vais pas bien ou quelqu'un m'énerve, je bois un verre. À la base, pas normal, ça. On est d'accord. On a réussi à créer ce truc-là, ouais. Et on est addict à ce mécanisme. Et ben, ça veut dire qu'on peut déprogrammer et mettre autre chose à la place. Mmh.
Donc finalement, c'est plus que de la volonté, c'est le déclic de se dire « je vais vers la construction plutôt que la destruction ».
Exactement, parce que...
C'est un changement de comportement.
Voilà, changement
de comportement, de paradigme aussi, vraiment une espèce de un nouvel état des lieux, quoi. Mmh. On n'est plus obligé de se détruire, on n'est plus obligé de consommer, on n'est plus obligé de manquer de liberté, alors qu'avant, on était dans l'obligation de consommer. En fait, l'addiction, c'est consommer contre son gré, malgré le fait qu'on n'ait même pas de plaisir.
Exactement.
Donc, c'est-à-dire que c'est complètement fou quand on y pense. Mmh. Donc, voilà, le déclic pour moi, ça a été de me dire, attends, et si c'était possible d'aller bien, en fait? C'est ça qu'il faut aussi dire aux gens, parce que on a l'impression qu'on pourra jamais aller bien, et il y a des addicts qui pensent qu'ils sont obligés de consommer toute leur vie, qui se disent moi ça va être comme ça toute ma vie, je le sais, il y en a plein qui disent ça, moi je le sais, je boirai toujours. Bah non, en fait, pas du tout.
Il y a des chemins différents.
Complètement. Et c'est un chemin, le rétablissement.
Bah justement, professeur, Rose parlait de thérapie cognitive et comportementale, j'ai l'impression que c'est aussi un des aspects du traitement d'un patient addict. Comment est-ce qu'on définit, comment est-ce qu'on soigne l'addiction concrètement? Est-ce qu'il y a un traitement qui peut être dupliqué sur
les patients? Oui, il y a une base commune. C'est la désintoxication, qu'on appelle le sevrage. Hein, cette désintoxication-là, donc on va éliminer le produit du corps ou changer le comportement. Donc il va avoir, ça dépend des drogues après, etc., mais des médicaments et une approche thérapeutique qu'on appelle les entretiens motivationnels. C'est-à-dire qu'on va travailler justement sur la motivation à changer son comportement. On va booster sa motivation pour se dire « je vais changer ». Et ça, c'est une thérapie qui est centrée sur le patient. C'est-à-dire que le patient est très, très actif. Ça, c'est la première étape. On les a désintoxiqués. OK, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Parce que le plus dur, c'est de maintenir l'arrêt de la consommation. C'est de maintenir cette abstinence. Et donc ça, on va changer de stratégie. Et on va avoir d'autres médicaments et utiliser les thérapies cognitives et comportementales. Donc, thérapie cognitive et comportementale, en gros, on va agir sur les pensées fausses qui induisent les comportements de consommation. Et on va aussi travailler sur les problèmes de couple, thérapie de couple. On va aussi travailler sur les problèmes de fond, les racines du problème avec tout ce qui est psychanalyse. On va aller chercher les racines du problème, voir ce qu'il y a. Parce que traiter que le problème d'addiction, ça ne sert à rien. Il faut traiter aussi le problème de fond. Et on va traiter s'il y a des problèmes physiques, s'il y a des problèmes psychiatriques, on va traiter la famille, etc.
Mmh. Et les facteurs de rémission, professeur, vous diriez que c'est lesquels? Parce que c'est essentiellement ça le sujet aussi, pour que justement l'addiction soit guérie dans le temps et qu'il n'y ait pas de...
Bah, la rémission, c'est le maintien. On a changé son comportement, on arrive à maintenir son abstinence, on a un entourage qui est solide et on a une bonne observance aux soins. C'est-à-dire que on va en consultation, on va en groupe de parole, on va aider les gens, et après, secondairement, on peut même devenir patient expert.
Et Rose, comment ça va aujourd'hui? Comment vous vous sentez? Et qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui, si vous regardez un petit peu derrière, de rester sur le chemin de la sobriété dans laquelle vous êtes?
Aujourd'hui, ça va plutôt bien. Il y a des jours meilleurs et des jours sans. Enfin, je veux dire, en tout cas, d'arrêter de consommer, ça ne veut pas dire maintenant tu vas être heureux toute ta vie. Hein. Ça veut juste dire que tu vas pouvoir enfin prendre la vie avec un peu de hauteur. Hein, parce qu'en fait, c'est ça le problème de la consommation, c'est qu'on est le nez dedans, clairement. Aujourd'hui, moi, j'ai pas le choix. C'est yoga, méditation, groupe de parole, psy, addictologue. C'est simple, c'est ça ou c'est l'alcool, la drogue, la dépression. Donc, je pense que n'importe qui choisirait la lumière. C'est pas si grave de devoir méditer. Je fais même pas beaucoup de sport. Je marche, j'essaie de marcher, mais voilà. Le yoga pour moi c'est important. Mais la respiration, ça a été le début pour moi de beaucoup de choses. Ça a été justement le point de départ de mon cercle vertueux, parce que ça m'a vraiment appris à contrôler justement le stimulus et donc la réponse que j'allais y apporter, quoi, parce que le stimulus c'est un truc qui me vient direct, craving. Alors je dis craving, j'aime bien. Immédiatement, normalement, j'allais directement consommer. Et là, maintenant, je réfléchis, je me dis, attends, ça va, tu sais très bien, là, elle t'a dit ça, t'es vénère. OK, il fait beau, il y a des gens dehors qui boivent du rosé. Non, mais c'est dur. En fait,
L'instant présent.
Ouais, c'est l'instant présent. C'est l'instant présent. Mais attention, parfois, tu te dis, allez, c'est l'instant présent, profitons-en.
On y va.
Non, mais moi, je peux pas, en fait. Ouais. C'est simple, c'est soit l'abstinence, soit c'est la guerre pour moi. Ouais. Donc oui, il y a pour beaucoup, et en fait, on met longtemps à s'en rendre compte, à accepter qu'on n'a pas le droit. Moi, j'ai appris grâce à Laurent que j'étais accro à une molécule qui s'appelait cocaïthylène et qui finalement associait la cocaïne et l'alcool. Et donc, pendant longtemps, je n'ai pas voulu arrêter de boire. Je pensais que je voulais arrêter la cocaïne, mais que c'était hors de question qu'on m'enlève l'alcool. Donc, c'est un long chemin, il est ardu. Mais il en vaut vraiment la peine. En fait, on est toujours à un verre près de l'enfer. Donc, il ne faut pas oublier que ce verre-là, il est plus facile à refuser que les suivants.
Et Rose, vous parliez tout à l'heure des groupes de parole aussi dont vous faites partie. J'ai l'impression que ça a été un vrai pilier, que c'est toujours un vrai pilier pour vous dans ce chemin-là. Oui. Est-ce que c'est ça, hein, c'est ce que vous m'expliquez?
Je considère vraiment que c'est le programme des 12 étapes, que ça s'appelle comme ça, hein, qui est aussi aux États-Unis, les 12 steps, tout ce qui est alcoolique anonyme, narcotique anonyme, les joueurs anonymes, OA, outre-mangeurs anonymes. Parce que la nourriture, on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est un fléau parce que les pauvres gens ne peuvent pas s'arrêter de manger. Parce que moi, je peux pratiquer l'abstinence, eux, ils ne le peuvent pas. Donc, il y a vraiment énormément de souffrance. C'est une maladie que je ne souhaite pas à mon pire ennemi. Hein. C'est un peu la loterie. Les groupes de parole, les gens souvent ont honte. Ah non, j'en suis pas là, je ne vais pas me mettre dans une salle. Si jamais vous avez vraiment honte, imaginez Brad Pitt ou Bradley Cooper en train d'être dans leur groupe de parole et de dire « Hello, I'm Brad and I'm an alcoholic ». Non, mais c'est vrai. Pourquoi dans les films on trouve ça génial et pourquoi nous on a honte? En fait, le programme, il est extraordinaire parce que ça va toucher à tous les pans de notre vie. De poser la consommation, c'est le premier geste, mais après, c'est infini. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les addicts qui ne consomment pas mettent cette frénésie dans leur rétablissement parce qu'on est des frénétiques. Et moi, c'est pour ça que j'ai fait ce podcast aussi, c'est pour me rétablir contre addiction, parce que les addictions viennent de nos contradictions, j'en suis sûre, mais aussi parce que je suis passionnée des addicts qui ne consomment pas. Je trouve que d'un coup, ils sont honnêtes, alors qu'on était des grands menteurs. On devient honnête, on devient spirituel alors qu'on était terre à terre. Enfin, moi, je trouve que c'est passionnant. Donc, c'est ça le message d'espoir aussi que j'aimerais donner aux addicts. C'est qu'en fait, il y a des solutions et qu'en plus, vous pouvez avoir une vie exceptionnelle, en fait, derrière.
Ouais, c'est une richesse aussi. Et merci beaucoup, Rose, pour votre confiance et de nous témoigner tout ça. Si bien soigner l'addiction, c'est vraiment fondamental, on vient de le dire. La prévention l'est tout autant auprès des jeunes générations. Professeur, quels sont les défis actuels de la prévention et les priorités d'après vous?
Il faut qu'il y ait déjà des vraies campagnes de prévention. C'est un vrai problème en France. C'est-à-dire qu'on a des campagnes qui sont financées avec énormément d'argent en, one shot, j'appelle ça des one shot, en un coup, donc il y a des grosses campagnes. Je trouve que les cibles sont mal anglais. Les messages chez les jeunes, ce n'est pas les mêmes messages que chez les plus âgés. Souvent, tout est un peu mélangé en termes de complications pour parler de prévention. Je crois qu'il faut. Les podcasts, ça sert à sensibiliser les gens. Tout ce qui est digital, les jeunes en raffolent, il faut utiliser ces supports-là, très courts, avec un public jeune qui parle aux jeunes. Le message aux parents doit être donné le même jour que le message aux ados. Il faut faire des conférences en présentiel, il faut utiliser le distanciel, il faut utiliser le digital. Et je crois que tout est à faire en France, en fait. Parce que de la prévention, c'est quoi ? C'est comme de la vaccination, c'est-à-dire que à un moment, le corps se rappelle plus. Il faut lui rappeler le vaccin. Et pour la prévention, c'est il faut rappeler, il faut répéter pour donner les messages, pour sensibiliser, informer et justement arriver à quelque chose qui va aider à prévenir des risques pour la santé.
Et en famille, est-ce qu'il y a des bons réflexes à avoir, professeur, pour communiquer, sensibiliser efficacement ses enfants, petits-enfants, aux dangers que peuvent représenter les substances psychoactives et les comportements, je pense aux jeux vidéo par exemple. Qu'est-ce qui est productif et contre-productif ?
Contre-productif, c'est interdire, par exemple, si on prend les réseaux, si on prend tout ce qui est digital, ce qui est contre-productif, c'est couper l'accès au digital. Ça, c'est contre-productif. Les études le montrent bien. Quand on coupe l'accès au digital, on coupe l'accès à Internet. Tiens, je te punis, tu n'auras pas d'Internet pendant une semaine ou pas de console pendant une semaine. C'est pareil, c'est l'équivalent en termes d'impact que chez quelqu'un qui consomme énormément d'Internet, etc. Donc, aucun intérêt. Il faut, je crois, en tant que parent, il faut parler très tôt des substances aux enfants. Il y a des études qui montrent aussi que il faut parler d'alcool vers 7-8 ans aux enfants. Voilà. Il faut leur parler de l'alcool, des risques de l'alcool, sans rentrer dans les détails. On ne va pas leur dire « si tu bois, tu vas avoir une cirrhose du foie ou un cancer du foie » parce qu'eux, ils n'utilisent pas ce message-là. Il ne faut pas faire goûter les fonds de verre aux enfants à des mariages, des baptêmes, des bar mitzvahs, etc. Bon, voilà, ça n'a aucun intérêt. Ils ont tout le temps de goûter à leur verre d'alcool. Sinon, vous pouvez leur donner une ligne de cocaïne, c'est pareil. Vous voyez, il y a ces éléments-là, ces réflexes-là à avoir. Et il faut parler des substances aux enfants. Il faut parler du tabac, il faut parler de l'alcool, il faut parler des drogues en général, il faut parler du cannabis qui est très présent. Le smartphone, on va le donner, on voit l'immense majorité des enfants ont leur smartphone quand ils passent au collège. C'est un outil social important, le smartphone. Ça rassure aussi les parents, ça rassure tout le monde. Il faut aussi savoir ce qu'ils font sur leur smartphone. Il faut respecter les normes d'âge pour les réseaux sociaux. Il faut leur parler d'activités sexuelles en ligne. De la pornographie, tu peux être amené à avoir de la pornographie, voilà, il faut parler, et si on est incapable en tant que parent, il faut se renseigner, il y a plein d'infos sur Internet, ou même vous pouvez en parler avec des professionnels.
Merci beaucoup, professeur. Merci. Et Rose, professeur, on arrive à la fin de nos échanges. Qu'est-ce que vous aimeriez dire, Rose, pour terminer, à celles et ceux qui nous écoutent ?
L'espoir, vraiment, que les solutions existent et qu'il y en a énormément. Maintenant, j'ai l'impression que la dictologie, c'est quand même une science qui est jeune encore, ouais. et qu'on va découvrir peut-être d'autres moyens de soigner, puisque de toute façon, je ne crois pas qu'on puisse guérir de cette maladie pour l'instant. Moi, j'ai envie de dire... déjà, à ceux qui sont proches de gens addicts, il ne faut pas oublier à quel point on vit une souffrance terrible. On doit se remettre en question tous les jours. On peut rechuter tous les jours. Donc, d'avoir un discours bienveillant avec les gens qui peuvent parfois rechuter, au lieu de dire t'es faible, mais enfin, c'est pas possible, on peut pas te faire confiance. C'est horrible parce qu'en fait, t'as pas de volonté, c'est contre-productif parce que la personne, quand elle consomme, c'est surtout parce qu'elle ne s'aime pas. Et donc, d'aller lui dire des choses qui vont l'accabler davantage, voilà. Et pour les gens qui consomment, j'ai envie de dire, écoutez, on a peur d'arrêter parce qu'on croit que la vie va être moins drôle, moins passionnante, on a peur de pas réussir à vivre sans. Et en fait, finalement, c'est tout l'inverse qui se passe parce qu'il y a beaucoup plus de surprises sans consommer, dans le sens où on a déjà tout écumé. Moi, je connais par cœur la fin de l'histoire quand je prends mon premier verre. Et en fait, il n'y a plus de surprises. C'est toujours la même. C'est toujours la même et elle va de plus en plus loin. Donc, on connaît la vie avec. Essayons la vie sans. Voilà.
Merci beaucoup, Rose. Professeur, un dernier mot à adresser à celles et ceux qui nous regardent ?
Je crois, voilà, on l'a dit, c'est une maladie chronique, l'addiction. Et comme toutes les maladies chroniques, la guérison, c'est pas le bon mot, c'est la rémission. Et on peut être en rémission longue, et on peut reprendre sa vie en main, on peut suivre sa thérapie. C'est le premier pas à faire et à franchir.
À franchir. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous aujourd'hui et à vous toutes et tous d'avoir suivi cette conférence. En synthèse de nos échanges, je vous propose de retenir notamment deux aspects, mais tout est évidemment très important. D'abord, comme le professeur Carella vient de le dire, l'addiction est bien une maladie chronique qui touche le fonctionnement du cerveau. Ses conséquences peuvent être très lourdes sur la santé, on l'a vu, sur la sécurité, sur toutes les sphères finalement de la vie de la personne qui en souffre ainsi que celle de son entourage. Et enfin, l'addiction est une maladie réversible, mais le désir de s'en sortir ne suffit pas. Il est très important pour le patient d'être accompagné par des professionnels de santé spécialisés et donc évidemment par un addictologue et d'être soutenu par son entourage. Merci encore à vous deux et je rappelle, comme je le disais tout à l'heure, qu'en complément de cette conférence, des fiches pratiques ciblées sur certaines substances psychoactives et certains comportements vous sont proposées et sont disponibles au téléchargement sur le site alliance.fr. Vous retrouverez également des vidéos où vous retrouverez le professeur Laurent Carilla qui est avec nous, qui apportera son éclairage sur certaines idées reçues sur l'addiction. Merci à toutes et à tous.